Il s'affiche aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis. Et
c'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, c'est ça, et ça, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphisme, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Terrain Vague. Nous sommes en mars 2026, et oui, j'enregistre un épisode parce que ça faisait longtemps. Je suis aujourd'hui avec Julien Bariol, nous sommes dans le bureau de Line-Up à Restang, qu'on n'est pas dans les studios de Divergence. Et on va parler de l'expo à venir de Julien dans la galerie Silas, qui est la galerie d'art du tiers-lieu Restang. Salut Julien.
Salut.
On va parler de cette expo, alors on va un peu tout aborder déjà avant de parler de l'expo en soi. On va parler un petit peu de... on va revenir sur ce que tu fais toi pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode qu'on avait fait il y a quelques temps. Est-ce que tu peux nous dire, en quelques mots, en quelques phrases, ta démarche artistique, en quoi consiste ton univers si tu devais le décrire à quelqu'un qui ne pouvait pas le voir justement?
Alors mon travail il tourne autour d'une écriture que j'ai imaginée. Mm-hmm. Il n'y a pas forcément une traduction possible, ouais. C'est une écriture complètement imaginaire qui évolue toujours un petit peu en fonction des supports, de la manière dont je veux l'amener, mais globalement on la reconnaît. Mm-hmm. Et après d'une expo à une autre, d'un projet à un autre, je vais développer ces écritures avec des techniques différentes et sur des supports différents pour raconter des histoires différentes.
Ok, donc tu utilises, quand tu parles de supports différents, ça peut être du bois,
mousse... Du polystyrène...
Du tissu...
Ouais, et puis après je travaille avec différents outils, de la peinture, c'est très varié.
Ok, comme là derrière nous, dans le bureau, vous pouvez pas le voir, mais on a une œuvre qui est faite sur du cuir.
C'est du faudin.
Du faudin, voilà, par
un
exemple.
Peu, donc, une espèce de gong antique.
Multi-support. Exactement. Et justement, le fait d'utiliser des supports différents comme ça, qu'est-ce que toi, ça t'amène dans ce travail de symbole que tu as? Est-ce qu'en fonction du support, ça donne tout de suite un espèce de contexte différent
Alors, tu as assez bien résumé le truc. C'est que moi, j'essaie de contextualiser mes symboles de plus en plus. Je les mets dans un certain environnement. Et du coup, le support va raconter une histoire en soi. Et puis surtout, en fonction de l'idée que j'ai, il y a certains supports qui fonctionnent et d'autres non.
Okay.
Là, c'est vrai que ça fait quelques années que je suis plus sur, on va dire, quelque chose qui ressemble à des vestiges de fouilles archéologiques.
Ouais.
Et du coup, j'essaie de trouver des supports qui sont potentiellement déjà patinés, qui ont déjà du vécu, ou je les transforme.
Mmh.
Et là, il faudra peut-être faire un cut parce que je suis en train de partir en couille.
Il coupera, c'est pas grave.
Qu'est-ce que je disais?
Non. Alors attends, non, ce qu'on va... ouais, non, on va le laisser, il coupera. Monsieur Bertrand, vous couperez. Non, ce qu'on peut. Là, tu parlais par exemple effectivement de quelque chose de très archéologique, mais par exemple, ce que tu as fait sur le projet Ad Astra.
C'est comme ça
que ça s'appelle.
Astra,
là, quand tu travailles tes symboles, mais avec une manière assez pixelisée, ça fait très futuriste, pour le coup. Enfin, on a l'impression de faire un autre voyage dans le temps, mais pas dans quelque chose d'archéo, dans le sens où c'est un truc passé, mais plus dans un espèce de monde à venir.
De monde à venir, ouais. Et ben, on parlait du support. Donc, le support peut jouer sur un peu cette ambivalence entre l'ancien et le futur. Mais il y a aussi la manière dont je vais faire mes symboles. Et là, justement, tu parlais de pixeliser.
Ouais.
En fait, parfois, je vais vraiment les peindre. C'est des lettres bâtons, quoi.
Mm-hmm.
Et des fois, je les pixelise, je les transforme. Et en fait, c'est l'écriture en elle-même qui déjà a quelque chose qui évoque autre chose.
Ok.
Voilà.
Et c'est ça qui nous amène dans une temporalité qui est différente et un autre contexte, quoi.
Exactement.
Une autre histoire que tu racontes. Et d'ailleurs, c'est des œuvres alors que tu fais en atelier, mais que tu fais aussi dans la rue. Peut-être un peu moins qu'avant, mais
de manière occasionnelle quand même.
On en retrouve de temps en temps. Donc, si vous avez l'occasion de faire un tour dans le centre-ville, je sais qu'on en On en voit.
Il en reste quelques-uns. Des vieux vestiges dans le centre-ville. Ouais.
Alors, quartier Méditerranée, c'est vraiment des vieux vestiges, mais il y en a une que tu avais fait un peu en mosaïque, tu sais, en bas de la Grand-Rue Jean-Moulin.
Ouais, c'est si, elle n'a pas bougé.
Dans un angle là.
Elle est toute petite, mais elle n'a vraiment pas bougé.
Elle n'a pas bougé. Donc, la mosaïque, par exemple, ça aussi, c'est un autre support que tu utilises pour faire tes œuvres. L'exposition, du coup, elle s'appelle Blabla.
Exactement.
Alors, déjà, pourquoi Blabla? Parce que moi, déjà, j'ai envie de savoir. Quand on a reçu le mail avec les infos, on s'est dit qu'en fait, Blabla, c'était parce que tu n'avais pas trouvé de nom et que c'était un truc comme ça, tu vois, en attendant de trouver. Et en fait, non, on a vu que c'était vraiment ça, le nom de l'expo. Te connaissant, ça me paraît très bizarre. Pourquoi Blabla?
Ben, c'est vrai que ça change un peu de ce que je fais habituellement.
Ouais.
D'ailleurs, toute l'exposition change de ce que je fais habituellement.
Ouais, ouais.
Et là, j'ai voulu faire un truc qui est un peu plus... actuel, on va dire. Mm-hmm. Et je suis parti du principe que dans notre quotidien, on est entouré de bruit. Quand j'appelle le bruit, c'est ce que j'appelle la publicité, les notifications incessantes sur notre téléphone.
Oui, pas que du son, mais ça peut être la pollution visuelle.
C'est ça, pollution visuelle.
Okay.
Et souvent, au-delà d'un visuel, il y a beaucoup d'écriture, beaucoup de textes qu'on finit par ne plus lire. En fait, c'est juste, c'est là, c'est présent, et ça devient une espèce de brouhaha, de blabla, quoi.
Ok.
Donc ça part un peu de cette idée-là,
d'accord,
d'où le terme blabla.
Ok. Mais, et toi, dans tes œuvres, qui finalement sont assez dépouillées, en fait, enfin, il y a de l'info, mais on arrive quand même à se focaliser sur les symboles, malgré tout. Donc toi, est-ce que t'es allé à l'encontre de ce brouhaha, justement, et t'as voulu dépouiller... Enfin, te dépouiller de la pollution visuelle qu'on a au quotidien pour proposer des œuvres qui sont peut-être plus lisibles ou qui nous font du bien à la tête.
Bah, y a la plupart des œuvres que je vais présenter, là, il y a un peu deux niveaux de lecture.
Okay.
En fait, quand on est loin, du coup, on a quelque chose de très carré, très rectiligne avec mes écritures.
Ouais.
Et dès qu'on se rapproche, et ben là, justement, on revient sur cette espèce de brouhaha.
Okay.
Et ben là, il va y avoir
du détail, après.
Du détail et plein de trucs justement de notre quotidien qui viennent nous re-sauter à la gueule, quoi.
Alors par exemple, dans ces trucs du quotidien, t'es venu collecter plein de papiers et notamment des vieux tickets de caisse, des factures, des trucs comme ça. Donc pourquoi ce type de papier, en l'occurrence, t'aurais pu prendre, je sais pas moi, des journaux, des magazines
Bah, il y avait un petit peu le truc de t'ouvres ta boîte aux lettres et c'est toujours un peu la surprise de est-ce que t'as reçu une facture, est-ce que t'as reçu une contravention.
Ok.
C'est la lettre que tu la prends, tu la poses sur le bord du bar et t'attends deux semaines avant de l'ouvrir. Parce que tu sais que ce que tu vas lire dedans, ça va pas te plaire ou que tu vas pas comprendre aussi, potentiellement. D'où tu as l'impression que c'est du blabla quotidien.
Ouais.
Voilà, des fois des lettres de relance, on te relance pour des trucs inutiles. T'as mal payé tes impôts, il manque 2 euros, on t'envoie une lettre pour te dire 2 euros. Voilà.
Ouais, et puis en plus, en général, maintenant à l'ère de la dématérialisation, tu sais que quand tu reçois un courrier papier, c'est forcément pour. Enfin, forcément. Dans 9 cas sur 10, c'est une mauvaise nouvelle, quoi.
Ouais, c'est vraiment une bonne nouvelle.
Bah, c'est vrai, quand tu reçois un courrier papier, les impôts en général, ils vont te l'envoyer, le courrier papier, la contravention aussi, alors que pour le reste, on t'envoie des mails, quoi. Ok, donc il y avait ce côté aussi de la saturation à laquelle on fait face, en fait, au quotidien.
C'est un petit peu ça.
Avec tout ce qu'on
reçoit. Il y a la saturation, et puis la plupart des œuvres, en fait, c'est une saturation de tout ça. C'est un assemblage de tous ces éléments.
Mm-hmm.
Et après, mes symboles, ils vont être soit creusés dans cette matière.
Oui, d'ailleurs.
Il y a une série qui va s'appeler Ça sonne creux.
Ok.
Je trouve ça rigolo, quoi. En fait,
d'accord.
Au final, j'enlève tout ça. Donc ça fait un nouveau niveau de lecture dans tout ça, mais en enlevant de la matière.
D'accord.
Et il y a d'autres œuvres où c'est l'inverse. C'est je viens encore en rajouter par-dessus. Là, par exemple, il y a des œuvres où c'est des tampons administratifs.
Ok.
Donc les annulés, factures, impayés.
D'accord.
Et donc, t'as ta facture. Ta lettre de relance, et par-dessus, tac,
tu viens
encore, et ça s'arrête jamais, quoi.
Ok. Et justement, là, on parlait tout à l'heure de matériaux avec lesquels tu travailles, donc avec une grande variété de matériaux et d'outils. Là, pour cette expo, t'es allé vers des nouveaux matériaux
Là, c'est essentiellement du papier, pour le coup. Donc, ça va être des magazines, les affiches qu'on colle dans la rue.
Ouais.
Comme tu disais, les tout ce qui est dans les boîtes aux lettres, les tickets
de
caisse.
Des vieilles factures.
Donc il y a beaucoup de supports qui sont liés au papier.
Ok.
Parce que c'est là qu'on retrouve essentiellement les publicités et tout ça. Mm-hmm. Et il y a aussi quelques autres supports un peu plus insolites. Notamment des claviers d'ordinateur.
Ah oui.
Mais j'en dis pas plus, il faudra venir voir ça.
Pour ceux qui veulent voir, le visuel notamment de l'expo, c'est ça. C'est un clavier d'ordi où tu as fait tes symboles. Donc est-ce que je peux quand même te demander pourquoi ce matériau ou pas?
Oui, si, si.
On va sans parler des œuvres et comment elles sont, mais pourquoi tu as voulu travailler des claviers d'ordi? Des claviers avec des touches, enfin, faut se représenter le clavier comme il était à l'époque en plus. Du coup, donc les grosses touches carrées qui étaient vraiment hyper épaisses, quoi, et pas les claviers tout plats comme on a maintenant.
Bah, l'idée, c'était de partir justement, de faire un contre-pied avec sur quelque chose d'un peu plus futuriste, okay. En tout cas moderne. Mm-hmm. Et du coup, bah, c'est des objets qu'on voit dans notre quotidien, l'informatique.
Ouais.
Ça a justement un lien avec le futur, le machin, tout ça. Et surtout, je voulais faire des œuvres avec des symboles un peu pixelisés.
Ok.
Et en fait, une touche de clavier d'ordinateur, il n'y a rien de plus carré.
Ah bah oui, c'est directement...
Donc en fait, c'est vraiment mon élément de base. Mm-hmm. J'ai des touches blanches, des touches noires, et avec ça, je compose et je fais mon œuvre avec ça.
Il y a un rapport au temps quand même dans ta démarche artistique, au-delà de la calligraphie, des symboles, des inspirations que tu as pu avoir sur des écritures anciennes, etc. Il y a un rapport au temps quand même qui est hyper, hyper important finalement, c'est-à-dire que ce soit dans le côté très archéo où le spectateur il va être en mode ben, on a l'impression de découvrir des ruines de quelque chose, ou dans quelque chose d'hyper futuriste, ou ce côté ben, voilà, les factures etc. qui nous ramènent vachement, qui nous ancrent vraiment dans la réalité dans laquelle on est. Toi, il y a quand même le temps, la période, l'époque, c'est hyper important, même si c'est des époques différentes, quoi.
Ben, souvent ce que je dis, c'est qu'il y a souvent deux éléments. Il y a le temps, mmh. et il y a le lieu. Et en fait, moi, ce que j'essaie de faire avec mes écritures, c'est que, d'un point de vue temporel, on ne sait pas trop d'où ça vient.
Ouais.
On ne sait pas si c'est ancien, si c'est futuriste, on est complètement perdu. Et géographiquement, on ne sait pas non plus trop d'où ça vient. Parce que ça pourrait être quelque chose qui est très oriental, comme occidental, enfin, ça peut être très varié. Et après, comme je disais, d'une expo à l'autre, d'un événement à un autre, les supports que je vais choisir et l'intention que je vais mettre, ça va quand même venir fixer un petit peu tout ça dans une temporalité. Là, par exemple, la dernière expo, on va dire que à l'échelle de l'humanité, on est dans les années 90-2010, quoi.
Ok.
2020.
Alors que, par exemple, ce qui est marrant, je reprends l'exemple de la galerie éphémère. Où t'avais fait c'était un grand bac à sable où t'avais fait les totems là un peu, cette espèce de village.
Une espèce de cité perdue à la Mad Max.
Ouais, peu. Voilà, c'est ça. À la Mad Max, effectivement, un peu aussi, un peu Star Wars aussi. Tu vois, un truc un peu paumé dans le désert comme ça. En plus, ces petits blocs, du coup, il y avait aussi toutes des composants électroniques qui étaient fixés à l'intérieur. Donc, à la fois, t'as ce côté un peu cité perdue, hyper vieille, une civilisation qui n'existe plus. Et en même temps, t'as ce côté hyper futuriste, très Mad Max, finalement aussi, qui te place dans une époque que tu sais pas si c'est à venir ou si c'est révolu.
Ben, j'aime bien justement jouer sur ces deux trucs parce qu'en fait, au final, on a toujours un peu tendance à voir le futur comme une amélioration toujours positive, ouais. Que tout va aller en s'améliorant, qu'on aura de plus en plus de technologies et tout. Mm-hmm. Sauf que, en fait, quand on étudie un peu l'histoire, on se rend compte qu'il y a plein de technologies anciennes qu'on a perdues et qui étaient folles, que même actuellement, on ne saurait pas le refaire.
Ouais.
Et d'un autre côté, on utilise nos cerveaux pour créer des choses super complexes. Par exemple, admettons l'intelligence artificielle.
Ouais.
Et en fait, dans la réalité, on l'utilise pour faire des vidéos complètement cons.
Ouais.
Du coup, en fait, c'est... je sais pas comment expliquer ça, mais...
C'est genre comme une perte d'équilibre, un peu presque. C'est, on a oublié un savoir-faire qui était hyper précieux. Et on développe des trucs hyper compliqués, mais pour des usages qui sont un peu cons, quoi.
C'est ça. Pas tout le temps, hein.
Non, pas tout le temps. Mais... Non, je grossis le trait, mais en gros...
Grossissant le trait, okay. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, il y a quand même ce truc où je sais pas, je suis attiré par justement tout ce qui est un peu savoir-faire ancestral et tout. Mm-hmm. Même ne serait-ce que des trucs très basiques, tu vois, au niveau de, j'en sais rien, de l'agriculture. Mm-hmm. Ben, on utilise maintenant des énormes camions, oui. Des énormes tracteurs, des énormes trucs.
Ouais, ouais.
Et en fait, au final, il y a des trucs plus résilients et plus simples et que nos parents et arrière-grands-parents avaient encore ces connaissances-là.
Ouais, ouais.
Et à part quelques personnes de notre génération qui sont un peu penchées dessus,
ouais.
Ça y est, c'est perdu, quoi.
Ouais, c'est perdu justement au profit de, bah, comme tu dis, de grosses machines ou trucs comme ça, alors que des fois, c'est vrai que ce savoir, si on le transmettait ouais. De génération en génération, bon, bah.
C'est comme, tu vois, on a tous un téléphone dans nos mains.
Ouais.
Qui, il y a encore. Une vingtaine d'années, ça a été... c'était fou d'avoir un téléphone.
Ouais.
Même l'accès à Internet.
Ouais, ouais.
On a grandi, dans les années 90, on a grandi avec les encyclopédies.
Ouais.
Les premières encyclopédies... Comment ça s'appelait ? Les premières encyclopédies...
Encarta.
Encarta.
Voilà. Oh putain ! Voilà. Un voyage dans le temps, là ! Encarta, ouais, les CD-ROM.
Les CD-ROM. Et on a découvert Internet, c'était fou.
Ouais.
Ça a permis plein de choses. C'est aussi développé tout ce qui est réseaux sociaux et compagnie.
Ouais, ouais.
L'intelligence artificielle, on en revient à tout ça. Et en fait, au final, on a un truc de fou entre nos mains.
Oui.
Et moi, le premier, hein, parfois, j'utilise pour scroller pendant des heures et regarder des trucs à la con.
Ouais, ouais, c'est sûr.
Et parfois, tu te dis, bon, à quoi ça sert d'avoir tout ça si,
pour
au final, c'est pour pas profiter de cet outil à son plein potentiel.
C'est sûr.
Si, voilà.
C'est sûr, parce qu'avant, l'accès était tellement moins évident. Quand t'avais Encarta, déjà, t'étais content parce que ça coûtait un rein.
Ouais.
Et qu'il te fallait un ordi à la maison pour pouvoir utiliser ce truc. Donc, bah, c'était quand même pas donné à tout le monde. Et en plus, je trouve qu'avec des encyclopédies comme ça, bah, tu cherchais quelque chose, mais par ricochet, tu tombais sur d'autres trucs. Et ça alimentait quand même ton savoir, quoi. Donc... Est-ce
ouais,
que c'est
ouais.
quelque chose qu'on a perdu, je sais pas, mais...
Ben, je sais pas, il y a quand même une espèce d'homogénéisation que tout fonctionne un peu de la même manière.
Ouais.
Je sais pas, les tout débuts d'Internet, on avait tendance à se perdre sur Internet.
Oui,
et
bah
tu tombais ouais. sur des trucs que tu jamais t'aurais regardé auparavant. Et en fait, maintenant, tu vas sur YouTube, Netflix et compagnie, t'as
ouais.
la page d'accueil avec les trucs en tendance,
ouais,
et du coup,
ouais.
tu regardes les trucs en tendance. Bah, t'es pas obligé de faire ça, mais...
Non, mais du coup, c'est vrai que
c'est le premier truc qui te saute aux yeux, quoi.
En fait, la surproposition
ouais.
aussi qui fait que, bah, par exemple, Netflix, comme tu dis, des fois, tu peux passer une heure à chercher quelque chose, à voir. Il y a tellement de trucs qu'au final, à la fin, il est 22h, t'as pas trouvé de film à regarder, bah, tu te dis, bah, je vais me coucher parce qu'en fait, là, ça y est, quoi, c'est fini. Donc, il y a aussi... Et ça va dans le sens de bah, blabla, justement, et cette... cette surinformation, et en fait, comme tu dis, c'est Internet, le téléphone au bout de la main, il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est compliqué aussi de faire le tri là-dedans, quoi.
Et même au quotidien, je veux dire, au quotidien, il y a de l'administratif, du machin, tu cours partout en fait, et
tu fais que ça.
Parfois, tu prends plus le temps de te poser, juste, je sais pas, admirer la nature, te reposer 5 minutes.
Complètement, non, c'est vrai. Et du coup, je reviens sur ce côté un peu de temps, etc. Quand on est, par exemple, bah, face à l'installation que tu avais fait à la galerie éphémère, il y a un peu... Enfin, est-ce que c'est voulu, je sais pas. Il y a un peu ce côté où on perd nos repères, aussi. On perd nos repères de temps, puisqu'on sait pas à quelle époque on a affaire en face de nous. Ça, c'est quelque chose dont tu as conscience aussi et que tu essayes de pousser dans l'expérience de... Du visiteur.
Ouais,
le côté où je vous mets dans une bulle autre.
Ouais, ça dépend des œuvres, peut-être plus quand c'est un peu immersif ou quand c'est des installations ou ce genre de choses.
Ouais.
Et j'aime bien que justement les personnes se posent plein de questions et pas une réponse. Enfin, de toute façon, c'est le principe de l'art, t'as pas une réponse à ce que tu regardes, mais là c'est vraiment d'ouvrir le plus large possible les interprétations.
Ouais, ouais.
Et ben on en revient à ce truc de temporalité.
Ouais.
Et en fait, selon la manière dont tu le perçois, c'est soit tu regardes le passé de l'humanité, soit tu regardes notre futur.
Ouais.
Un peu dystopique.
Un peu dystopique.
Voilà.
Bon, on sent bien tes inspirations quand même derrière pour celui qui te connaît. Mais je trouve ça intéressant parce que ça nous interroge, parce qu'au final, c'est quand même très abstrait, mais ça nous interroge d'une manière ou d'une autre sur le rapport au temps, rien que ça en fait. Et après, quand on a préparé l'émission, tu parlais de cette expo comme une façon d'être plus ancré dans l'actualité aussi, ou dans quelque chose de plus actuel.
Oui, tout à fait.
De quelle façon tu vois ça, toi ? Enfin, comment, si tu devais expliquer pourquoi cette expo, à ton sens, est plus ancrée dans ce qui, enfin, dans l'aujourd'hui, en gros, quoi. Qu'est-ce que...
Bah, ça va plus être, entre guillemets, sur ma démarche artistique globale. Je pense que depuis quelques années, justement, je suis allé chercher un petit peu à parler de l'humanité en règle générale, de nos savoirs en règle générale. Mmh. Et là, il y a peut-être plus quelque chose qui est de... J'ai envie de parler de plus de moi. Mmh.
Tu resserres un petit peu plus, ouais, le prisme, quoi, on va dire.
Et ben, tu vois, là, quand je blabla, quand je parle de tout ça, en fait, c'est... j'ai l'impression de parler de ce que je vis au quotidien, quoi.
Okay.
Des trucs qui me saoulent en permanence, ou même des actions que je vais faire quand je lui dis que je scrolle des fois des heures sur... où je... C'est une façon de dire, putain, tu fais de la merde, quoi.
Ouais, ouais.
Donc,
et de te recentrer un peu sur...
De te recentrer et d'être... plus en connexion avec le présent.
Ouais, ouais, c'est ce que je veux dire, d'être plus là, ouais, et ancré, effectivement, dans le...
Et même là, tu vois, dans cette exposition, ce que j'ai essayé de faire, c'est de travailler aussi avec d'autres personnes.
J'allais y venir, justement, puisque cette expo, tu l'as pensée de manière globale. On voit bien qu'on n'est plus dans une simple exposition en galerie où on va mettre 10, 15 œuvres et juste multiplier un peu les formats, etc., et les supports. Là, donc tu fais cette expo dans la galerie Silas, mais tu as imaginé une install, donc on ne va pas dévoiler ce que c'est, mais elle sera visible dans le patio. Mais tu as beaucoup bossé sur la communication, par exemple. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle a été cette direction que tu as voulu prendre et pourquoi tu as voulu t'investir aussi dans cette brèche-là, dans ce côté-là de l'expo, quoi.
En fait, de plus en plus, je vois une expo comme si c'était un album.
Ok.
Donc en fait, tu as ta carrière et chaque album, c'est tu racontes une nouvelle histoire.
Ok.
Et du coup, là, l'idée, c'est que l'histoire, elle commence à se raconter dès le premier moment où tu teases et où tu commences à dire, voilà, il va y avoir une exposition.
Mm-hmm.
Et du coup, l'idée, c'était d'avoir toute une continuité. Donc okay. Là, j'ai bossé avec Morgane du collectif Cimenta qui m'a fait des animations.
Mm-hmm.
Et donc, ces animations, elles reprennent des codes très actuels, un téléphone qui est blindé de notifications en permanence, des caricatures un peu des sites de rencontres. Enfin, plein de petits...
La traduction aussi
en ligne. La traduction sur Google Traduction, ouais, ou ce genre de choses-là. Et donc, c'est pas vraiment le résultat graphique, ça va pas être ça sur mes œuvres, mais ça amène...
Le propos, en fait.
Et il y a des petits clins d'œil après dans l'exposition, dans la scénographie, des tout petits clins d'œil qui sont... En fait, il y a un lien du premier post, entre guillemets, qui part des réseaux sociaux, jusqu'à la dernière touche qui est faite dans l'expo.
Okay.
Il y a vraiment toute une continuité.
Et là, on voit vraiment, parce que bon, c'est pas la première expo que tu fais, mais c'est quand même, je pense, de cette envergure-là, c'est quand même une première peut-être pour toi.
En tout cas, où c'est aussi bien réfléchi.
En galerie et tout, ouais. Je me dis. Et là, je vois bien que voilà, tu t'es investi quand même d'une autre façon, ne serait-ce qu'effectivement avec la communication, où t'as travaillé avec Morgane, effectivement, mais t'as toi aussi. T'as vraiment activement participé à la com, t'as pas juste dit bon bah voilà, j'aimerais ça, tu me le fais, puis basta, quoi.
J'ai un peu tout chapeauté et même moi je me suis amusé là pour ceux qui l'ont vu. Quand je disais j'ai fait des tampons administratifs, ouais, donc je me suis amusé à faire des tampons avec mon tour à bois, avec le joli manche en bois et tout, pour passer 2 jours à fabriquer tout ça pour faire une vidéo qui dure 50 secondes.
D'ailleurs, ça aussi, c'est un truc qui est intéressant, c'est que toi, c'est l'œuvre du début à la fin, c'est-à-dire que tu conçois dans ta tête, tu réalises, tu produis, mais il y a aussi, c'est toi qui vas faire les caisses américaines, dans les encadrements, c'est ta patte du début à la fin quand même.
Ouais, enfin, en grande partie, ouais.
Tu fais appel à des gens extérieurs pour venir ajouter quelque chose, mais dans ton œuvre, c'est quand même toi qui fais tout. Enfin, je veux dire, tu vas pas aller acheter des encadrements, tu vois, tu... Ouais.
Non, même fabriquer les supports... Mais en fait, j'ai beaucoup de mal à déléguer et à faire...
C'est pas vrai.
Voilà, j'essaie.
Non, mais après, t'as un savoir-faire aussi, donc je pense que c'est aussi ton kiff d'exposer quelque chose que tu as fait toi, entièrement.
Et puis il y a pas mal aussi, je suis très bricoleur, et il y a beaucoup d'œuvres, en tout cas d'idées que j'ai pour faire des œuvres, où j'ai besoin d'un outil très spécifique qui n'existe pas dans le commerce ou qui coûte
un rein
pour le résultat que je veux. Et du coup, j'ai tendance à fabriquer mes propres outils.
Voilà. C'est là où tu te perds un peu des fois. Gentiment. Dans la suite du coup de cette globalité dans cette expo et de cette expérience, hein, on va dire. Donc on a parlé de la com, on a parlé d'une install qui sera à découvrir dans le patio. Elle va rester pendant toute l'expo, la
salle. Elle reste le temps de l'exposition.
Ok. Il y a un cocktail aussi.
Ouais.
Visiblement. Tu nous racontes.
Eh ben, il va y avoir quelqu'un qui va venir expressément spécialisé là-dedans.
On peut le nommer cette personne.
Ouais, Camille.
Voilà. Camille, qu'on connaît bien sur les réseaux en général.
Voilà, qui va faire un cocktail sur mesure. Et on va essayer un peu de le custom. Il y aura un petit clin d'œil.
Pour les gens qui ne le savent pas, Julien Bariol, comme c'est un touche-à-tout, fait des cocktails lui aussi. C'est quelque chose que tu aimes bien faire quand même. Parce qu'on pourrait se poser la question de pourquoi tu nous prends un cocktail en fait pour ton expo.
Parce que j'en ai marre d'aller boire du vin blanc et du cocktail dans les expositions.
Parce que c'est pas ton délire aussi, ça, en général.
Moi, je trouve ça pas tellement fun. Et du coup, je sais pas, faut ramener un peu une nouveauté, quoi.
Mm-mm. Et pour toi, ça fait partie aussi de cette soirée de vernissage, tu vois, d'avoir une boisson qui soit à ton image aussi,
ouais.
Et tes goûts.
Et changer un petit peu les codes, ce qu'on a tout le temps l'habitude de voir dans les vernissages un peu classiques, là, mm-hmm. entre guillemets, un peu mondains, là.
Ouais.
Bon, les petits fours et les petits verres de vin blanc...
Ça va 5 minutes.
Et voilà, ça fait pas toute l'expo, ça fait pas tout le vernissage, mais c'est un petit truc en plus, je trouve.
Ouais, puis une petite performance aussi.
On passe un bon moment, et puis oui, il y a le côté un peu performance aussi.
Parce que du coup, il sera là pour faire les cocktails. Donc ça, c'est chouette aussi. En plus, tu ramènes quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, qui est connu, enfin... Qui est connu quand même, je veux dire, sur les réseaux, c'est quelqu'un de suivi, enfin ouais. Voilà.
Et puis l'idée, voilà, c'est de faire des collaborations, quoi. C'est ça qui est intéressant.
Et ça pour toi, ça a une valeur vraiment à ajouter à ton expo. Enfin, ça n'enlève rien au fait que ce soit ton expo. Mais toi, pour toi, faire des collaborations sur une expo personnelle comme ça, qu'est-ce que ça amène de plus? Tu vois, enfin, quand tu dis, voilà, j'ai fait la com avec un tel, je fais un cocktail avec machin...
Déjà juste humainement c'est intéressant en fait.
Ok, les relations que tu peux ouais.
Et puis surtout des fois t'as une idée mais bon je suis très mal placé pour dire ça mais t'as une idée et des fois en fait c'est quelqu'un d'autre qui va le réaliser bien mieux que toi.
Oui, voilà. Ça tu veux, t'as du mal.
Ouais, ben, ça j'ai beaucoup de mal mais justement on apprend et
oui.
En fait petit à petit plus je sais pas, plus on grandit, plus on avance dans les projets.
Mm-hmm.
Plus je sais qu'il y a certains domaines dans lesquels je sais le faire, je peux le faire, mais je vais y passer un nombre d'heures incalculable.
C'est
qu'à un moment donné,
c'est du temps que tu ne passes pas après sur de la production d'œuvres, etc. Voilà.
Et ça, surtout, ça sera sûrement moins bien fait que,
ouais. Que quelqu'un
si je fais
dans
appel
ses métiers.
Exactement. Oui. Et puis du coup, en plus, voilà, ça fait un peu travailler tout le monde, ça fait il y a une effervescence quoi autour d'un projet.
Ouais, puis ça fait découvrir une pratique, hein, notamment voilà la mixologie, je crois.
Ouais.
Et puis ça fait effectivement, je trouve, on en a parlé la dernière fois, de dépoussiérer un peu cet événement qu'est le vernissage, qui est chouette comme événement parce que c'est l'occasion de découvrir l'expo, de rencontrer l'artiste surtout, parce qu'en fait dans ces moments-là, ouais, tu découvres l'expo, mais en fait t'es surtout là pour discuter, pour boire un coup, etc. Mais on perd de vue au final, nous en étant dans ce milieu-là, en plus, on est souvent invité dans ces événements, et c'est vrai que c'est un peu toujours pareil. Donc c'est chouette quand on a des expos, comme celle de Mara qui a eu lieu en octobre, où là, pareil, c'était un truc assez global avec ce bonhomme gonflable immense, les gâteaux, les bières avec prisme et tout. Donc c'est chouette d'avoir une proposition qui te sortent un petit peu de, comme tu dis, petit four, vin blanc ou coupette de champagne.
Ouais. Parce que moi, le premier, je n'aime plus aller au vernissage.
Et ouais, que tu vas plus parce qu'en fait, ça t'intéresse plus, quoi.
Ça m'intéresse. Enfin, comment dire.
C'est toujours pareil, en fait.
C'est toujours intéressant, mais je préfère limite aller voir l'exposition après le vernissage.
Ouais. Ouais, ouais. Donc là, tu l'as imaginé, toi, comme un vernissage auquel tu aimerais aller, finalement.
Ouais, puis je sais pas, j'ai envie que les gens viennent et qu'ils passent un bon moment, quoi.
Mm-hmm.
Qu'ils viennent et qu'ils restent 2-3 heures, ils viennent boire un verre et ils discutent. L'idée, c'est d'avoir un... On travaille et on expose dans un tiers-lieu où on veut, justement, que ce soit vivant.
Complètement.
Et l'idée, au-delà de moi, mon vernissage de cette exposition, c'est que, je pense, dans la globalité... On veut que ce soit un lieu d'échange.
Oui.
Donc en fait, dès qu'on va faire une action ici, bah, l'idée c'est de pousser un petit peu plus ce côté-là.
Ok. Pour créer ces échanges. Il nous reste une minute. On va finir sur ton actu du coup, parce que effectivement il y a cette expo, donc vernissage le 26 mars.
26 mars, tout à fait.
À partir de 18h à la Galerie Silas, au 3 rue du Lantissargue, à Restanque. Mais tu as d'autres expos à venir, tu nous dis rapidement.
Ouais, et ben après mois d'avril, mi-avril, il y a une expo sur Paris.
Ouais.
Et pour les Montpelliérains, après, ça sera le 3 juillet, vernissage de l'exposition à Saint-Ravi.
Yes, espace voilà. Saint-Ravi, on est trop contents. Ça, c'est trop cool. Et à Paris, c'est où ?
Paris, c'est dans le 19e, je ne pourrais pas vous donner l'adresse exacte.
Ok, bon, ça, on pourra le communiquer. On le retrouvera sur tes réseaux sociaux, voilà, sur Instagram. Julien Bariol avec deux R. Merci beaucoup. On a bien appris tout ce qu'il fallait savoir sur l'expo. Maintenant, on a hâte de la découvrir. Ça arrive dans une dizaine de jours. Ouais, un peu moins. T'es prêt, j'espère.
Je suis dans les temps.
Ok. Et merci beaucoup, Julien, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Terrain Vague.
Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
C'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graffiti, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan, tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.